Je vous propose de lire un récit de l'Ancien Testament dans lequel nous allons tenter de discerner un exemple d'attitude dans un contexte très anxiogène. Nous allons lire dans le livre de Ruth le premier chapitre et c'est Simon qui va nous faire la lecture.
Donc Ruth, chapitre 1, versets 1 à 22. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec. Sa femme Noémie et ses deux fils, Malon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourrait vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez. Je suis trop âgée pour me remarier. » Et même si je disais « j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même et j'en aurai des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier ? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles-filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là, Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction ? » C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge.
Merci Simon. Alors ce n'est pas une histoire très très heureuse pour commencer l'année, je l'admets. Et ce premier chapitre du livre de Ruth nous présente une situation initiale qui n'est pas des plus joyeuses. Alors dans un premier temps, nous allons essayer de nous attarder sur cette réalité qui semble difficile à avaler, avant de relever par la suite l'exemple de Ruth, qui pour le coup sort de l'ordinaire face à l'épreuve. Et enfin, nous essaierons de comprendre dans quel plan de Dieu s'inscrit le caractère extraordinaire de Ruth. Pauvre Noémie, ou pauvre Naomi. Je suis plus habitué à dire Naomi que Noémie, je ne sais pas pourquoi. Alors je vais dire Naomi. Pauvre Naomi. Les mots peuvent manquer lorsque l'on découvre la situation de quelqu'un qui n'a pas été épargné par les épreuves de la vie. Cette femme israélite traverse une réalité de la vie très délicate. Essayons d'en comprendre les raisons. Alors tout d'abord, d'un point de vue sociétal, on constate que les temps sont durs à l'époque. La famine a frappé Israël. Ce fléau obligeait souvent les habitants touchés à émigrer dans un pays voisin qu'ils n'étaient pas touchés. Aujourd'hui, Naomi serait sûrement qualifiée de migrante. Naomi, la migrante, non pas à cause de la guerre, mais plutôt à cause d'un phénomène climatique que nul ne pouvait éviter. Naomi subit donc un déracinement. En quittant les siens avec son mari pour vivre chez les Moabites, un endroit où elle serait considérée comme étrangère. Ses deux fils, Malon et Kilion, se marient d'ailleurs avec deux autochtones, Orpa et Ruth. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, nous apprenons qu'après avoir émigré, Naomi perd premièrement son mari. Quelques années plus tard, c'est au tour de ses deux fils de mourir. Elle reste seule avec ses belles-filles. C'est donc la mort qui frappe à trois reprises une femme déjà vulnérable par sa situation d'étrangère. En plus de vivre dans le deuil de son mari et de ses fils, Naomi doit aussi porter un autre fardeau, lié au fait que ses fils soient morts sans laisser de descendance. Nous pouvons poursuivre, ne pas poursuivre la lignée de son mari est pris comme une double peine que nous pouvons lire au verset 12. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerais à un mari cette nuit même et j'en aurais des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier ? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Naomi fait allusion ici à une coutume, cette coutume nommée coutume du Lévitat, qui autorisait une veuve laissée sans descendance à épouser le frère du défunt mari. Cette coutume souligne l'importance de conserver une lignée généalogique qui est la source de bénédiction pour la famille. Mais malheureusement, pour Naomi et ses belles-filles, tous les hommes potentiellement géniteurs sont morts. Dans la suite du récit, Naomi apprend que la situation s'est améliorée en Israël. Elle décide de quitter le pays, théâtre de ses malheurs, et veut même congédier ses deux belles-filles avec qui elle n'a plus de lien familial. Il s'agit là d'un point de rupture où Naomi fait la synthèse de ses ressentis. Elle décrit précisément cette réalité qu'elle a du mal à avaler. Au verset 13, elle se décrit comme affligée, en mettant même en exergue une cause biblique à son malheur. « L'Éternel est intervenu contre moi ». Voici sûrement une tentative d'expliquer l'accumulation de malheurs pour un croyant. Une tentative d'expliquer l'inexplicable. Plus tard, lorsque Naomi retourne chez elle, en Israël, et qu'elle est reconnue par d'autres connaissances, elle ne se définit plus comme Naomi l'heureuse, mais plutôt comme Mara, l'affligée. Les épreuves qu'a subies Naomi l'ont changée. Elles ont affecté peu à peu sa personnalité. Elle, connue visiblement comme une femme rayonnante, est devenue triste et fade. C'est ce que l'on appellerait aujourd'hui un bon coup de déprime, qui manifestement n'épargne pas ceux qui croient en l'Éternel. Alors, à la lecture de toutes ces mésaventures qui plombent un peu l'ambiance, je l'avoue, il est présent facile de comprendre pourquoi Naomi n'arrive plus à vivre dans cette réalité où elle a tout perdu. Son désespoir paraît soudainement compréhensible. Après tout, Naomi n'est qu'un être humain, comme nous. Mais observons à présent un exemple d'attitude dans le malheur qui interpelle fortement. Parce que nous l'avons lu dans le récit, Naomi n'est pas la seule dans le malheur. Elle est accompagnée par ses deux belles filles qu'elle décide de congédier lors de son retour à Israël. Seulement, ses plans ne se déroulent pas comme prévu, car l'une de ces jeunes femmes a un caractère bien trempé. À la surprise générale, Ruth ne désire pas rentrer chez les siens. Cela est surprenant car ses parents sont sûrement encore vivants et rappelons-nous, elle n'a eu aucun enfant avec son défunt mari. Par ailleurs, bien que considérée à son tour comme étrangère moabite en Israël, elle garde une solidarité généreuse avec sa belle-mère. Mieux encore, elle va adopter le Dieu d'Israël et avoir foi en lui. D'un point de vue matériel, Ruth a subi aussi les décès des hommes de la famille. Elle est donc au courant que la situation est précaire pour Naomi. Et pourquoi donc rester avec une femme qui n'a plus rien à offrir? Paradoxalement, elle semble même disposée à placer les intérêts de sa mère avant les siens. Ruth éprouve un attachement viscéral à Naomi, exprimé au verset 16 et 17. « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. » C'est pas les paroles d'une chanson, ça ?« Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple, ça je pense pas que c'est dans la chanson, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Ruth aime sa belle-mère, ou plutôt sa mère Naomi. Ruth aime sa mère et arrive finalement à se faire apprécier et à se faire aimer à son tour de sa mère. Mais quelle magnifique ressource que celle de se faire aimer et apprécier en des temps difficiles. Bien qu'elle soit aussi dans l'épreuve, Ruth arrive à mettre ses ressources en action. Elle utilise malgré elle les épreuves pour révéler ses capacités à aimer. Elle arrive à mettre en mouvement une dynamique d'amour qui, soyons clairs humainement, n'a aucun sens. Rappelons-nous qu'elle n'a absolument rien à gagner en restant avec une veuve sans descendance. Oui, mes amis, n'ayons pas peur des mots. Ruth est un encouragement pour ceux qui sont dans la détresse. C'est un encouragement à adopter définitivement le Dieu d'Israël et à placer sa confiance en lui seul. À la lecture d'un tel comportement, nous pouvons nous interroger sur l'origine de telles facultés à aimer. Car c'est bien d'amour que nous parlons. Comment est-ce possible qu'un être humain puisse démontrer autant de ressources positives dans un contexte aussi sombre? Alors, la réponse est très simple. Cela est possible parce que Dieu le veut. C'est lui qui est à l'origine de ses ressources. Ces dons d'amour visibles chez Ruth ne proviennent pas de n'importe qui. Et ces dons ont un but précis. Revenons un instant sur cette question de descendance. Sans vouloir spoiler ou révéler la fin du livre, je vais le faire quand même, il faut savoir que le comportement de Ruth va lui construire une réputation Cette bonne réputation va lui permettre d'attirer l'attention d'un parent d'Élimélec nommé Boaz. Ce même Boaz va à son tour se marier avec Ruth et ces derniers vont avoir un enfant, Obed. Ainsi, nous voyons que Dieu a utilisé Ruth. Il l'a utilisée dans un plan de restauration de Naomi, car souvenez-vous, Naomi était affligée. Mara, plus de mari, plus de fils, plus et pas de descendance possible. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Le fils de Ruth et Boaz, Obed, va devenir le grand-père de David, ô combien important pour le peuple de Dieu en tant que premier roi d'Israël et psalmiste invétéré que nous connaissons bien. Mieux encore, toujours sous l'angle généalogique, nous apprenons dans le premier chapitre de Matthieu que 1100 ans plus tard, la descendance de Ruth, d'Obed et de David donnera naissance par le biais d'un charpentier nommé Joseph, un petit enfant né dans une mangeoire à Bethléem. Bethléem, la ville d'origine d'Élimélec, l'Éphratien de Juda. Oui, Dieu sait vraiment ce qu'il fait. Cette capacité d'aimer a permis certes de restaurer la personnalité éprouvée de Naomi par la naissance d'un petit-fils inespéré, mais elle nous garantit surtout à nous la naissance du Sauveur Jésus que nous connaissons. Pour conclure à présent, que retenir de ce récit ? L'histoire de Naomi et de Ruth nous révèle qu'il est possible de vivre dans la fidélité de l'Éternel au sein d'une époque de ténèbres. Il est possible de vivre dans la fidélité du Seigneur au sein d'une époque de ténèbres. Cette histoire nous révèle un sens caché de l'épreuve, qui est de mettre en mouvement une dynamique d'amour et de grâce au lieu de mettre en exergue nos manquements et nos faiblesses. Par ailleurs, nous pouvons déduire que l'épreuve sur terre fait partie du plan de Dieu pour tout un chacun. Comme Ruth, nous ne sommes pas seuls sur terre et nous avons la capacité d'impacter notre environnement qui vit les mêmes tribulations que nous. Dieu reste le maître à bord du navire malgré les tempêtes de la vie. Il est le souverain et veut nous appeler à intégrer son projet pour l'humanité. Quelle est la finalité de ce projet ? Quelle est la finalité de la descendance de Naomi ? Jésus-Christ. Lorsque nous sommes Mara, affligés par les échecs de nos projets, lorsque nous sommes affligés par les maladies, voire même la mort, Jésus est celui vers qui nous pouvons regarder. La finalité absolue. Nous le savons en termes d'affliction, Jésus a connu l'extrême sur la croix, mais il a vaincu cette affliction pour ressusciter auprès de Dieu afin de nous préparer une place auprès de lui. Mais en attendant, que faire ? 2016 arrive, et déjà là d'ailleurs, j'écris ça le 31. Et que pourrais-je vous souhaiter finalement ? Une bonne année ? Oui. La santé ? Certes. Mais la bénédiction que je vous souhaite le plus d'éprouver est l'amour. C'est en éprouvant de l'amour pour les autres que nous pouvons nous réaliser pleinement sur cette terre. Et ce, quels que soient les événements tragiques qui pourraient nous arriver. Dieu nous appelle dans son plan pour impacter notre environnement, nos proches, et quelle opportunité stimulante de pouvoir être une bénédiction, nous, les êtres béni et racheté par le sang de Jésus. Alors certes, j'aurais aimé faire vous transmettre un message pétillant, positif et plein d'espoir, mais j'ai bien peur que ce soit loin de la réalité. Mais en somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Je vous souhaite donc une bonne année 2016, pleine de force et d'amour dans notre Dieu souverain. Amen.